Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako et sur l'ensemble de notre réseau synchronisé. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici la matinale. C'est parti pour les épreuves du baccalauréat malien. Cette année, 192 000 candidats répartis entre 424 centres vont prendre part à cet examen. Du côté des parents d'élèves, c'est l'optimisme. Ils estiment que les précédents examens ont porté fruit. Les responsables ne sont toujours pas situés. 2 ans après les tueries des 10, 11 et 12 juillet 2020, les victimes attendent toujours que justice soit faite. En hommage à ces morts, une prière a eu lieu ce week-end à Bamako. La série de formation des étudiants journalistes de la Fondation Hirondelle se poursuit. 8 étudiants de l'UQAO formés en débat radiophonique ont reçu vendredi dernier leurs attestations. Cette session vise à mieux préparer ses futurs journalistes. Tout de suite, le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo à la mise en onde de Mamadi Keïta. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Les épreuves du baccalauréat session de juillet 2022 débutent à l'instant même sur l'ensemble du territoire. Pour cette session, ils sont plus de 192 000 candidats inscrits dans 424 centres, y compris celui du camp des réfugiés de Mbeira en Mauritanie. Les responsables en charge de l'organisation des examens affirment que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement du bac. Le point avec Juliette Koulibaly.
Au lycée Baminata Diallo, des candidats sont présents et certains vérifient leur salle et place. Armés d'optimisme, ils disent être prêts à confronter les épreuves de ce lundi.
J'ai confiance en moi et je sais que j'ai appris suffisamment de leçons pour m'en sortir.
Je suis prête pour affronter l'examen.
J'ai pris assez de leçons et j'ai pris les bonnes dieux pour que ça vienne ce secondaire.
Toutes les académies d'enseignement ont reçu le nécessaire pour le bon déroulement des examens, affirment les responsables en charge de l'examen. Toutefois, ils mettent en garde contre toute tentative de fraude. Mahamadou Keïta, directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation.
Cette année, nous avons décidé d'appliquer le règlement des examens. Cela veut dire simplement qu'il est formellement interdit aux candidats d'amener les téléphones. Aucun autre effet ne sera accepté dans les centres si ce n'est le but ou le matériel autorisé en fonction des disciplines. Il en est de même pour les surveillants.
Rappelons que lors des précédents examens, 13 personnes ont été accusées de fraude. Leur procès, qui était prévu la semaine dernière, a été renvoyé au 2 et 30 août 2022.
Les parents d'élèves se disent optimistes quant au bon déroulement du baccalauréat cette année. Selon eux, au regard du niveau d'exécution du programme et des précautions prises pour lutter contre les cas de fraude, les résultats du baccalauréat ne peuvent qu'être légitimes. Daouda Sako, membre de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali, est joint au téléphone par Lala Aïcha Wallet Info.
Bon, en tant que parent d'élève, j'ai très bon espoir parce que les examens précédents ont été mieux organisés, surtout par rapport aux années passées. Et je pense que toutes les dispositions sont prises pour que le baccalauréat aussi puisse en être de la même manière. Et du coup, on est déjà préparé pour que ça se passe très bien. Les élèves, les candidats, autant bien que les professeurs et les parents d'élèves qui accompagnent l'ensemble et les autres partenaires de l'école. Et pour la première fois, vraiment, après combien d'années, alors vraiment, les fuites, la fraude, éléments qui forcent toutes les données qui ont été quand même bien maîtrisées cette année. L'année scolaire a été assidueuse et avec un enseignement de qualité, vraiment, il faut s'attendre à de très bons résultats.
À suivre dans nos prochaines éditions le déroulement de ces épreuves du baccalauréat malien. 8h04, vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des individus ont dynamité la station de pompage du périmètre irrigué de Sofara dans la région de Mopti. Ce périmètre irrigué était le plus grand de la région avec 560 hectares. Cette action a sévèrement endommagé la plaine, mais les responsables affirment que la campagne agricole peut être sauvée si les acteurs agissent rapidement. Écoutons Moudi Bosso, chef de zone Sofara, joint par Mohamed Ali Ag Alida.
Bon, nous l'avons constaté le vendredi matin très tôt, parce que le vendredi, le gardien de l'ouvrage m'a appelé pour me dire que la nuit du jeudi au 20 vendredi, la station a été dynamitée. mais par des individus où on l'ignore. Ah, je peux vous confirmer qu'on peut sauver la campagne. Maintenant, comme on est en phase pépinière, la campagne peut être belle et bien sauvée. Nous sollicitons les ressortissants de Sofara et tous les autres partenaires à main avec l'officerie. Nous pouvons sauver la campagne belle et bien parce qu'on est en phase de pépinière.
Parlant toujours d'insécurité, 3 personnes tuées, 10 de blessés, des animaux emportés. C'est le bilan d'une attaque qui a eu lieu vendredi dernier à Koumoudou dans le cercle de Bankas. Elle a été menée par des hommes armés non identifiés à moto selon les sources locales. Les blessés ont été transportés au centre de santé de référence de Bankas. La population continue de réclamer le renforcement du dispositif sécuritaire afin de permettre aux paysans d'aller dans leurs champs. 2 ans après les manifestations des 10, 11 et 12 juillet 2020, les victimes attendent toujours que justice soit faite. Selon le collectif de victimes, des personnes ont été entendues, mais le verdict n'est toujours pas donné. Le dossier est au niveau de la commune 3 de Bamako, affirme ce collectif. Amsé Toutouré nous en dit plus.
Mohamed Sanogo fait partie des victimes de ces manifestations. Il a reçu une balle alors qu'il se rendait à son village. Selon lui, sa vie a basculé.
J'étais sur une moto au niveau du carrefour de Sogonoukou en allant vers Manyambougou. Je partais au village pour un mariage. C'est là qu'ils ont tiré sur moi. La balle m'a touché au bras gauche. Je me suis débrouillé pour conduire avec mon bras droit jusqu'à ce que j'ai croisé un vieil homme qui m'a transporté à l'hôpital.
Pour le collectif des victimes, certes, des personnes ont été entendues, mais jusqu'à présent, justice n'est pas rendue. Seydou Doumbia, président du collectif des victimes du 10, 11, 12 juillet 2020.
Pour le moment, il n'y a pas eu de procès. En tout cas, on a confiance à la justice malienne et on croit en elle. Que tous les Maliens sachent que cette affaire doit être un exemple parce que les gens sont sortis sans armes, mais on les a tirés dessus. On demande à l'État d'identifier les personnes qui ont donné l'ordre de faire cet acte. Que la justice fasse son travail pour que cela ne se reproduise plus.
Rappelons que le collectif des victimes a été mis en place depuis le 17 juillet 2020 après les tueries du 10, 11, 12 juillet 2020. Ce drame a fait 14 morts, dont 2 à Sikasso et Kaye. Il est composé de 56 membres.
Une prière en hommage à ces victimes et pour le Mali a eu lieu ce week-end à Bamako. Cette cérémonie a été organisée par la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahamoud Diko Semas. Pour l'occasion, l'ex-autorité morale du M5-RFP s'est prononcée sur l'actualité du pays. Il a appelé les autorités à faire preuve d'inclusivité pour le redressement de la transition. Il a aussi dénoncé les diffamations à son encontre. Le point avec Khalifa Goïta.
Dans son intervention, l'imam Mahamoud Diko a jugé sensible l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali au regard du lien historique entre les deux pays. Selon lui, il est de la responsabilité des autorités de prendre des décisions pour l'intérêt du pays. Il poursuit que les populations doivent éviter le débat avec des messages haineux. Pour relever les défis à venir, les guides religieux pensent que cela ne peut se faire que par l'union sacrée des Maliens en oubliant les divergences. Nous avons fait la révolution, le parachèvement, la rectification et il reste le redressement. Ce redressement ne se fera pas avec un individu ou un groupe d'individus, mais avec tout le peuple malien. Il nous faut un minimum de consensus, a-t-il dit. Par ailleurs, l'imam Diko a catégoriquement démenti des propos récents sur les réseaux sociaux où on lui reproche d'avoir reçu 50 milliards de francs CFA des Qataris. Il précise n'avoir jamais mis pied à l'aéroport de Qatar avant d'ajouter que la refondation d'un pays doit se faire sur d'autres valeurs que la calomnie, a-t-il conclu.
Khalifa Goïta. Autre sujet à présent, la CEDEAO a levé ses sanctions sur le Mali depuis le 3 juillet dernier, mais les prix des produits restent en hausse dans plusieurs endroits. C'est le cas au grand marché de Bamako. Pour les populations, il faut un suivi des autorités pour que le prix de certains produits revienne à la normale. Sur le marché, du côté des commerçants, on estime qu'il faut une réduction des taxes douanières. Le reportage de Fatoumata Maïga.
À
Après la fin de l'embargo, la population s'attend à une baisse sur le coût des produits. Plus de 10 jours après, aucun changement n'est enregistré au grand marché de Bamako. Pour les commerçants, les prix sont restés en hausse chez les grossistes.
Pour le moment, on ne ressent pas les effets de la levée des sanctions. Il n'y a pas eu de changement.
Pour moi, cette levée des sanctions ou pas, c'est la même chose. Les difficultés sont partout dans le monde.
La situation ne fait qu'empirer. On n'en sait rien de la levée de l'embargo. Actuellement, tous les produits sont chers.
Les marchandises coûtent cher depuis la source. Même le prix du transport a augmenté.
Il est un peu tôt pour constater une réduction, estime Mamadou Fofana, directeur chargé de la communication de la Chambre de commerce. Il ajoute aussi que le prix de certains produits a connu une augmentation bien avant l'embargo.
Il doit avoir un retour à des prix que nous connaissions. Il faut un peu de temps. Le sucre, le lait, le pain, avant l'embargo, vraiment avait connu une légère augmentation. Tout concerne quand même les produits qui entrent dans la construction, comme le fer et autres, on va connaître une diminution.
En attendant, la population espère que les prix des produits reviennent prochainement à la norme.
Parlons toujours d'économie. La ZLICAF, entendez par là la zone de libre-échange continentale africaine, une initiative des États africains. L'instrument a été officiellement lancé en janvier 2021. Il vise à libéraliser les échanges commerciaux entre les États du continent. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la ZLICAF? Réponse avec Enza Traoré.
L'application de la ZLICAF est confrontée à des blocages, notamment au Mali. Des explications avec Boubacar Balo, conseiller technique au ministère du Commerce et de l'Industrie.
Il y a eu des lenteurs dans les négociations. Il y a eu la COVID-19 qui faisait qu'il n'y avait pas de voyage pour permettre aux négociateurs des pays de se retrouver. Mais il y a également les difficultés dans les négociations qui font qu'il n'y a pas concrètement d'échange de commerce de marchandises entre les États africains sous le régime de la ZLICAF. Non seulement au Mali, mais dans aucun autre pays africain.
Certains économistes pensent toutefois que la ZLICAF pourrait apporter beaucoup à l'économie malienne. Modibo Mao Makalou, économiste.
Cela change beaucoup de choses et nous pouvons vendre notre coton, les animaux sur le continent. On pourrait diversifier notre production nationale parce que nous avons une production très spécialisée basée sur l'or, le coton et les tailles. Augmenter la productivité de l'économie en développant d'autres filières et avoir accès à ce vaste marché continental sans droit de douane.
Rappelons que l'accord de la ZLICAF a été ratifié par le Mali depuis 2019, avant son lancement officiel en 2021.
Un gendarme et une femme ont perdu la vie samedi dernier lors d'une attaque à main armée dans le cercle de Nioro du Sahel. Selon des témoins, 5 hommes armés non identifiés cagoulés sur 3 motos ont surgi de nulle part et ont tiré à bout portant. Informés, les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur les lieux. Les enquêtes sont en cours pour retrouver les assaillants. Parlons à présent de cette formation des journalistes, des étudiants journalistes de l'UCAO organisée par la Fondation Hirondel. 8 étudiants ont reçu vendredi dernier leurs attestations après avoir reçu une formation de 2 semaines en débat radiophonique. Une formation organisée, je vous le disais à l'instant, par la Fondation Hirondel. Le reportage de Lale Tangara.
8 étudiants de l'ICAO ont reçu leur attestation de formation en débat radiophonique. Après cette session de 2 semaines, l'abbé Alexis Damélé, doyen de la filière journalisme et communication à l'ICAO, juge l'initiative nécessaire pour ses futurs journalistes.
Le débat radiophonique, c'est un genre radiophonique qui est très très prisé. On lance un sujet, puis plusieurs personnes peuvent s'exprimer là-dessus. Dès l'école, il faut que les étudiants se familiarisent avec la manière de conduire un tel débat.
Les étudiants bénéficiaires disent avoir beaucoup appris au cours de cette formation et ils remercient les formateurs pour la qualité des cours.
J'ai beaucoup appris surtout les bases. J'ai appris comment il faut faire un débat. Les formateurs, ils ont été à la hauteur. Et d'ailleurs, j'ai été le meilleur débatteur.
On a beaucoup appris, surtout pour le débat radiophonique. On ne savait pas comment ça se faisait. Et aussi, le comportement à prendre face aux invités, ils ont touché même les plus petits détails.
À savoir que 2 étudiants ont reçu le prix de la meilleure production lors de cette remise d'attestation.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Autre actualité, en bref, à l'occasion de la célébration de la 25e journée de la sage-femme du Mali, les sages-femmes de Sikasso se sont auto-sensibilisées samedi dernier sur les mots qui minent leur corporation. Il s'agit notamment de l'accueil des patients, des patientes, l'hémorragie post-partum, c'est-à-dire l'hémorragie après accouchement, la réanimation du nouveau-né et bien d'autres. Selon les organisatrices, cette journée vise à orienter les sages-femmes sur le respect des soins maternels et aussi à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et périnatale. 8h15 se referme cette édition que vous pourrez réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 321. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. La mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Tout de suite, le magazine.